on va un peu parler du fonctionnement humain par rapport au sommeil, et je vais en fait m'axer aussi sur l'impact du sommeil sur nos capacités cognitives. Je suis neuropsychologue avant tout. D'ailleurs, je vais peut-être un petit peu réexpliquer ce que c'est mon métier, c'est pas forcément très connu. Donc comme son nom l'indique, je suis avant tout psychologue. Je m'intéresse essentiellement au fonctionnement psychique de l'être humain, au comportement. Et le terme neuro devant, c'est que j'aborde ces questions-là sous l'angle du fonctionnement cognitif. Donc je vais m'intéresser à tout ce qui est fonctionnement de la mémoire, de l'attention. Je vais dire un gros mot déjà, mais comme ça vous serez dans le vif du sujet, de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc c'est les fonctions gérées par le lobe frontal et qui sont nos fonctions d'adaptation, de régulation du comportement, de planification, mais ça je réexpliquerai un petit peu tout à l'heure. Et donc, alors actuellement je travaille essentiellement auprès des enfants pour tout ce qui concerne les troubles des apprentissages, mais dans mes fonctions précédentes, j'ai travaillé en psychiatrie de l'adulte auprès des personnes qui ont des troubles psychiques sévères. Et on peut aussi, si on est du coup au niveau développemental, on peut aussi intervenir auprès des personnes âgées pour tout ce qui concerne les troubles de la mémoire, par exemple. Donc voilà un petit peu la palette d'intervention du neuropsychologue, pour faire bref. Donc voilà, vraiment, moi, mon objet principal d'intérêt, c'est vraiment le fonctionnement cognitif, tout ce qui va toucher l'attention, la mémoire. Donc je vais essayer de vous en parler un petit peu, et de voir les liens qu'il peut y avoir entre le sommeil et cognition. Voilà un petit peu le but de ma présentation. Alors, je vais revenir. Alors théoriquement, je devais parler cet après-midi, ce qui m'arrangeait bien, parce que juste avant moi, il y avait l'intervenant qui parlait des rythmes biologiques, et que je pouvais rebondir là-dessus, puisque vous aviez été introduit à toutes ces notions-là. Alors là, ça va être un petit peu plus scabreux pour vous, parce que je n'ai pas eu cette intervention préalable, donc je vais réintroduire rapidement cela, mais je pense que cet après-midi, il y a des choses qui vont s'éclairer aussi. Voilà. Je vais donc parler des rythmes circadiens, des rythmes veille-sommeil également, et puis, ce que je disais, on va voir aussi le lien entre sommeil et cognition. Et puis, je suis professionnelle de soins et de santé avant tout, donc l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut favoriser notre sommeil, à travers des petites adaptations dans notre rythme de vie. Alors, c'est là où déjà c'est pas ma spécialité et où je vais devoir faire synthétique et sans que vous ayez les notions préalables. Notre biologie est marquée par des rythmes. Ces rythmes-là, si on prend sur l'échelle de 24 heures, on a des phases de pic et des phases de diminution de certaines fonctions biologiques. Alors ici, j'ai repris les fonctions qui sont les principales, qui interviennent principalement dans le sommeil. Et puis, on s'aperçoit aussi que ces rythmes biologiques, du coup, ont des pics et des modulations en fonction de l'alternance jour-nuit. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit soleil et une petite lune. Si je regarde la température corporelle, par exemple, on sait qu'on va avoir une augmentation de la température corporelle au cours de la journée, avec un pic qui se situe à peu près autour de 17 heures, et puis à nouveau une diminution de la température pendant la nuit. Et ça va être quelque chose qui va jouer un rôle important par rapport au sommeil. Si je regarde aussi le cortisol, on va avoir une augmentation très forte du cortisol en tout début de journée, hein, vers 6-7 heures du matin, avec une diminution progressive dans la journée, et ça va être en opposition avec la mélatonine. Donc, vous connaissez le fonctionnement biologique, hein, tout est en interaction. Je ne reviens pas sur ces différentes interactions, justement, on serait bien incapable. Mais on va avoir du coup parallèlement une augmentation de la mélatonine, qui est une hormone qui va induire le sommeil, et qui va augmenter à partir de 19 heures jusqu'à à peu près 1 heure du matin, avant de décroître au cours de la nuit. Et donc, on voit, en parallèle de tout ça, qu'on va avoir aussi des fluctuations dans notre niveau de vigilance. La vigilance, elle va augmenter progressivement au cours de la matinée, donc là, normalement, vous êtes au top, hein, il est 11 heures midi. La vigilance est à son maximum. Elle va décroître jusqu'à 15 heures. Et on sait que, alors voilà, c'est pas toujours retrouvé dans toutes les études, mais on va avoir une baisse de la vigilance autour de 15 heures. Donc, vous avez remarqué, hein, quand on n'est pas très actif, c'est un petit peu le moment où il y a la sieste qui nous gagne. Et de nouveau, cette vigilance va réaugmenter aux alentours de 19-20 heures, avant de redescendre pendant la nuit, heureusement. On est un petit peu moins vigilant pendant la nuit, normal, on dort. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi, alors en termes du coup de capacité, de disponibilité dans les apprentissages. Et puis, on a remarqué aussi au niveau des travails, des emplois à risque, qu'effectivement, la période de 15 heures, c'était des périodes un peu plus à risque d'accident que des périodes accidentogènes au niveau professionnel. Donc un niveau de moindre vigilance. Donc, je fais une petite parenthèse, mais on voit aussi à quel point c'est plus important. Je parle de l'enseignement, par exemple. Ça va être hyper intéressant de pouvoir mettre des enseignements qui vont demander énormément d'énergie cognitive le matin, puisque notre vigilance est plus importante, et l'après-midi, d'être dans des activités qui vont solliciter un petit peu moins des fonctions cognitives de haut niveau, et d'être plutôt dans des choses automatiques, qui ne vont pas demander un effort intellectuel aussi important. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Parallèlement à ça, je vous ai mis en haut, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me semble important de rappeler aussi qu'il y a un lien avec l'alimentation. Donc on a aussi des fluctuations dans notre sentiment de satiété ou dans notre envie de manger. Donc moi, j'ai pas envie de manger là en ce moment. La stimulation de l'appétit, elle est favorisée par la gréline qui est produite pendant la journée. Et pendant la nuit, normalement, on fabrique une autre hormone qui s'appelle la leptine et qui va plutôt induire la satiété. Hein, donc on va pas avoir envie de manger pendant la nuit. Et ça, je le précise maintenant, j'y reviendrai tout à l'heure, on verra en quoi des perturbations du sommeil vont aussi impacter la prise alimentaire et du coup impacter aussi la régulation corporelle. Alors, ce que je viens de vous présenter là, c'est ces modifications en fait dans la sécrétion des hormones, des neurotransmetteurs et du coup au niveau de la vigilance aussi. Ça suit un rythme qu'on appelle donc le rythme circadien, qui est à peu près un rythme entre 24 et 25 heures. Ce rythme-là, donc c'est un rythme biologique qui est propre à plusieurs espèces. Il va être synchronisé, régulé par des marqueurs de temps. Et notamment, le marqueur de temps le plus fort, c'est l'alternance jour-nuit. Donc la lumière, notamment, va jouer un rôle fort pour synchroniser ces rythmes-là et leur permettre une régularité, qui va nous faire vivre sur un rythme de 24 heures. Je vous parlais de ce petit décalage de 24 heures et quelques tout à l'heure. Donc l'exposition à la lumière va jouer un rôle crucial pour réguler ces rythmes-là et nous permettre d'avoir une stabilité dans le temps. Par ailleurs, l'exposition à la lumière va aussi favoriser la sécrétion de mélatonine et va être un inducteur de sommeil. Alors bien sûr, on a d'autres synchroniseurs qui sont quand même forts, qui est notre rythme aussi social et professionnel. Et je vous montrerai aussi tout à l'heure à quel point des perturbations dans ce rythme social-là va amener des décalages aussi au niveau de nos phases de veille et de sommeil. Donc là, je vous ai parlé des rythmes biologiques avec ces synchroniseurs, notamment synchroniseurs liés à la lumière. Et en parallèle de ces rythmes biologiques, notre organisation veille-sommeil répond à j'ai mis un petit sablier, il y a un phénomène qui est la pression du temps. Donc il y a en fait un écoulement dans la journée, un écoulement du temps qui fait que on va avoir un niveau d'éveil et que à partir d'un certain temps d'éveil, on va avoir un besoin de dormir. Alors je vais vous expliquer ça, cette notion de pression du sommeil, en parlant un petit peu d'expériences qui sont faites hors du temps. Donc on va mettre des personnes dans des situations de bulles environnementales où il n'y a pas du tout la présence de ces synchroniseurs comme l'alternance jour-nuit, et où va pas y avoir de référentiel d'horloge ou autre, et où par ailleurs va pas y avoir d'activité. On va observer ce qui se passe. Et dans ces situations d'isolement, hors du temps, dans un premier temps, on va avoir une synchronisation des moments où la personne est éveillée et où elle s'endort, qui va être calquée sur le rythme biologique. Donc, dans un premier temps, elle va garder ce rythme-là. Puis, on va voir petit à petit une désynchronisation entre le moment où la personne va dormir et s'éveiller par rapport à la température corporelle. Et au fur et à mesure, il va y avoir un décalage complet entre son rythme biologique et les moments où elle va avoir envie de dormir et où elle va s'éveiller. Donc on a bien toujours ce phénomène de besoin de dormir, besoin d'être éveillé, mais à un moment donné, il est complètement désynchronisé du rythme biologique. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le déphasage, hein, il n'y a plus de synchronisation entre les deux dimensions qui nous permettent de réguler la veille et le sommeil, et c'est ce qu'on appelle un décalage de phase. Or, cette synchronisation entre les phénomènes biologiques et le moment où on va s'endormir et le moment où on va se réveiller est indispensable pour être dans des conditions optimales de disponibilité cognitive et de vigilance. Si le moment où on va dormir, le moment où on s'éveille, est désynchronisé de la température corporelle, de ces fameux pics de cortisol et de mélatonine, on ne va plus être dans des conditions optimales au niveau cognitif. Et il n'y a pas qu'au niveau cognitif que ça va amener des problèmes, il y a aussi au niveau de l'humeur et au niveau de l'homéostasie biologique. On va avoir des répercussions importantes sur la santé, je vais un petit peu le détailler tout à l'heure. Donc finalement, là je suis en train de dire que il ne s'agit pas d'aller dormir quand on en a envie, tout simplement. Il faut aussi être attentif aux signes biologiques qui nous font dire qu'on a besoin d'aller dormir. Si on est trop décalé, on va perdre aussi en efficacité au niveau cognitif. Et on va avoir des répercussions sur la santé plus importantes. J'y reviens un petit peu. Je voulais faire une petite parenthèse aussi. Alors ça, ce sont certainement des choses qui sont connues sur les états de sommeil. Vous savez que le sommeil est constitué de différents états. On a une période d'éveil dans la journée. Cet éveil va être un petit peu plus calme avec des zones qui vont être différentes en fin de journée. Et puis au moment où on s'endort, il y a une phase de sommeil léger. C'est les stades 1 et 2. Donc à ce moment-là, c'est un sommeil lent, léger. C'est-à-dire que notre niveau d'éveil reste assez bas. Le moindre bruit va peut-être amener à de nouveau une période d'éveil. Et puis, plus on avance dans le temps de sommeil, plus on va arriver dans un sommeil profond. Déjà là, le seuil de stimulation est un petit peu plus élevé. Et on a une période de sommeil qui est un petit peu particulière, qui a beaucoup fasciné les neurobiologistes. C'est le sommeil paradoxal. Donc ce temps de sommeil paradoxal s'appelle paradoxal parce qu'il y a une forte activité au niveau cortical, donc il y a énormément de stimulation qui se passe au niveau neuronal. Par contre, ça correspond à une phase d'atonie musculaire, il n'y a absolument aucun mouvement du corps, et il y a on est dans une période complètement hermétique aux stimulations environnementales. Cette phase de sommeil paradoxal, elle arrive en fin d'un cycle de sommeil. On a plusieurs cycles de sommeil dans la nuit, vous avez tous entendu parler des fameux trains du sommeil, donc plusieurs trains de sommeil pendant la nuit. À la fin de ce sommeil paradoxal, on a une courte période un petit peu intermédiaire où on est dans un état d'éveil mais pas complet, et on va reprendre un train de sommeil. Alors il faut savoir aussi qu'en début de nuit, donc au moment où vous allez vous coucher, le sommeil principal, c'est un sommeil beaucoup plutôt lent, profond, et qu'en fin de nuit, donc plutôt vers le petit matin, on a plus des phases de sommeil léger et de sommeil paradoxal. Je voulais repréciser ça, je vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc je parle des décalages de phase. Je voulais aussi faire une autre petite parenthèse sur l'évolution des temps de sommeil depuis plusieurs années et avec l'évolution de notre société. Alors, ici, je vais guider ma souris. Ici, je vous mets par exemple l'évolution des temps de sommeil entre 2010 et 2017 pour une population qui est très surveillée actuellement. C'est la population des 18-24 ans. Donc, on va dire fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Et encore que là, sur ce tableau-là, il n'y a pas l'adolescence, mais voilà, c'est la période la plus à risque. On voit qu'il y a un décalage, il y a une évolution du temps de sommeil qui se caractérise par une diminution de quasiment un quart d'heure de sommeil par nuit. Donc, c'est quand même assez important. Alors voilà, cette diminution du temps de sommeil, elle est assez variable en fonction des tranches d'âge, mais elle est vraiment très très importante en 2017 pour la tranche d'âge 18-24 ans. Alors pour ça, il y a plusieurs explications possibles. Il y a déjà l'entrée dans la vie professionnelle, les études, qui font que on va plutôt passer du temps à travailler plutôt qu'à dormir. Il y a aussi l'augmentation de la présence des écrans avec des stimulations le soir où on va passer plus de temps à répondre sur WhatsApp et ça n'est pas très mal. Il y a plus de transition, on coupe l'ordinateur et on va se coucher. Il y a cet espace un petit peu transitoire où on peut répondre alors qu'on est déjà dans son lit et que du coup, on a du mal à marquer la fin de ces interactions sociales. Il y a les effets des lumières bleues également. Et c'est un certain nombre de comportements qui vient quand même considérablement réduire la quantité de sommeil et induire essentiellement pour cette tranche d'âge-là aussi un coucher beaucoup plus tardif. Si je rappelle aussi ici, en termes de besoin de sommeil, à combien on est. Alors par exemple, si j'ai un diagramme qui montre pour l'ensemble de la population, le besoin de sommeil, alors l'ensemble de la population adulte, pardon, est d'à peu près 7h14. Alors, moi je peux vous dire avec 7h14, ça ne suffit pas. Mais ça, c'est parce qu'on a des caractéristiques aussi biologiques et personnelles qui fait qu'on est plutôt petit ou gros dormeur. Donc ça, c'est déjà important de savoir où on se situe. Mais en tout cas, la moyenne est de 7h14. Et on voit que finalement, en temps réel, on est souvent en dessous et que la moyenne de temps de sommeil est de 6h45, si je vois bien, pour l'ensemble de la population adulte. Donc, il y a vraiment une perte de temps de sommeil assez considérable avec l'évolution et l'avancée de notre société. Alors, quel est le problème par rapport à ça? Alors, je reviens là sur mes notions de synchroniseur et de désynchroniseur. Donc, on a vu qu'il y avait besoin d'une certaine rythmicité, que la lumière favorisait une certaine régularité dans notre rythme biologique, mais qu'il y a des phénomènes qui vont induire une désynchronisation entre ces fameux rythmes biologiques et le moment où on va aller se coucher et où on va pouvoir dormir ou vouloir dormir. Ces désynchroniseurs, ils ont été répertoriés. Il y a tout ce qui va être lié au travail de nuit, donc les infirmières, les contrôleurs aériens, enfin, c'est des populations qu'on peut étudier, mais il y a plein de métiers comme ça où il y a besoin d'être sur son poste de travail la nuit et où on va du coup ne pas pouvoir aller dormir au moment au niveau biologique, il faudrait aller dormir. Il y a tous ces phénomènes aussi liés au voyage. De plus en plus, on voyage à travers, non pas à travers le temps, mais à travers le monde avec des phénomènes de jet lag, qui sont pas seulement pendant les vacances pour le loisir, mais aussi des fois dans les déplacements professionnels. À moindre échelle, il y a les changements d'heure, mais pour certaines personnes, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant, hein, un petit changement d'une heure, deux fois par an. Et puis, en désynchroniseur, j'en parlais juste avant, il y a tous ces phénomènes d'exposition à la lumière. Or, on sait qu'il suffit d'une intensité lumineuse pas forcément très importante pour amener une désynchronisation. Il suffit de quelques dizaines de lux et la lumière d'une bougie peut est déjà être suffisante. Donc ça veut dire aussi que maintenant qu'on a la lumière à tout moment de la journée et qu'on n'est plus sur des rythmes de diminution de la lumière avec la disparition du soleil, etc., qu'on est finalement le soir souvent exposé à des lumières qui sont beaucoup trop intenses et qui vont amener des petits décalages, des petites désynchronisations. Alors ça, c'est des choses, je le glisse au fur et à mesure, mais c'est des choses qui peuvent être adaptées. C'est-à-dire que vous pouvez très bien diminuer l'intensité lumineuse le soir avant d'aller vous coucher, et que ça, ça va favoriser l'induction et la survenue du sommeil. On sait aussi que la durée d'exposition à la lumière joue. Alors, ça joue dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est aussi important de s'exposer à la lumière pendant la journée et d'être confronté à la lumière du soleil, parce que c'est ça aussi qui va pouvoir induire le sommeil quelques heures plus tard. Et on a aussi la notion que l'onde lumineuse va jouer un rôle dans l'incidence de certaines hormones de la mélatonine. Donc l'exposition à la lumière, c'est quelque chose d'assez important et qui peut être un des synchroniseurs forts, mais qui est aussi un mode thérapeutique. On sait que la luminothérapie, c'est quelque chose qui est assez probant quand on a des troubles du sommeil. Et donc, je l'évoquais aussi tout à l'heure, tous les changements sociaux avec les médias, les activités, etc. La pratique d'un sport, par exemple, aussi intensif en fin de journée, ça peut être aussi des désynchroniseurs qui font que on ne va plus aller se coucher au moment, biologiquement, il faudrait qu'on aille se coucher. Et c'est donc comme ça qu'on peut voir apparaître des décalages de phase, c'est-à-dire que la personne va aller dormir, par exemple, pendant la journée, ou va être éveillée pendant la nuit, et ces décalages de phase, on appelle les troubles circadiens, vont avoir des répercussions importantes. Alors, le signe premier, l'alerte un peu la plus évidente, ce serait de la somnolence. Si vous avez de la somnolence dans la journée, ça peut être l'indicateur que vous êtes dans une situation de décalage de phase. Et puis les répercussions, donc je disais, ça peut être au niveau cognitif, avec, je vais y revenir juste après, des phénomènes de modification de la vigilance. Donc cette vigilance, hein, je décrivais les fluctuations au cours de la journée, va être modifiée. Et on va avoir aussi une réduction d'accès au mode préfrontal. Alors, c'est-à-dire qu'on va aussi réagir sur des modes plus émotionnels. On va avoir du mal à réguler nos humeurs, nos comportements, en s'appuyant sur nos fonctions frontales, qui sont des fonctions de régulation, qui sont des fonctions de raisonnement, de réflexion. Donc on va être peut-être plus dans des réactions automatiques, impulsives, et beaucoup moins dans des réactions réfléchies et analysées. La prise de recul va être plus difficile. On voit aussi apparaître dans ces moments de décalage de phase des troubles métaboliques vasculaires, hein, des troubles cardiaques, de la prise de poids, pas mal d'obésité qui peuvent être liées aussi à ces décalages de phase. Et puis on peut avoir aussi une plus grande incidence de cancer. Alors, je suis désolée, je ne vous pose pas un tableau très très gai. Et aussi des troubles de l'humeur. Il y a dans les maladies psychiques énormément de personnes qui souffrent de décalage de phase. Alors après, qui est de l'œuf ou de la poule, c'est un peu compliqué aussi de savoir qu'est-ce qui induit quoi. Il y a des phénomènes un peu de cercle vicieux. Alors, si je reviens plus précisément sur ces liens entre sommeil et attention, alors il y a deux choses. Hein. Il y a à la fois notre disponibilité au niveau cognitif dans la journée, et puis il y a aussi l'impact de ces décalages de phase ces décalages de phase vont aussi modifier le rôle du sommeil sur la mémoire. Donc, je vais un petit peu détailler ces deux aspects-là. Par exemple, au niveau attentionnel et au niveau de la vigilance, on sait qu'un sommeil insuffisant ou un décalage de phase va entraîner une fatigue, hein, je parlais de somnolence à l'instant, et qu'on va avoir une atteinte des capacités attentionnelles, déjà au niveau du filtre attentionnel. Donc l'attention, c'est à la fois la capacité à soutenir notre attention dans la durée, ce qu'on appellerait l'attention soutenue, mais aussi la capacité à filtrer les informations de notre environnement. Par exemple, juste avant, on était en train de discuter, donc il y avait plein de discussions différentes qui avaient lieu. Il y avait un brouhaha dans la salle. Et si vous étiez en train de discuter, autant faire toi et Yann en discuter, il fallait que je me concentre sur ce que disaient mes interlocuteurs et que je fasse abstraction de ce qui pouvait se dire dans le petit groupe à côté. Donc il fallait que je filtre les informations pour pas être submergé par tout l'environnement. De la même manière, quand vous travaillez dans un open space ou quand vous avez une horloge qui fait tic-tac, à côté de vous, il va falloir filtrer ces bruits parce qu'ils sont parasites, ils sont distracteurs par rapport à la tâche que vous voulez faire. En situation de manque du sommeil, on a une atteinte de ce filtre attentionnel. Donc on a beaucoup plus tendance à être distractible, à ne pas être capable de filtrer les informations non pertinentes de l'environnement. On a remarqué que cette modification attentionnelle, elle était équivalente à la présence d'un gramme d'alcool dans le sang. Donc, quand vous manquez de sommeil, c'est exactement la même répercussion au niveau attentionnel que si vous avez consommé de l'alcool, enfin, c'est un état d'ivresse avec une présence d'un gramme dans le sang, ce qui est au-dessus des normes autorisées pour la conduite, hein, par exemple. Donc, c'est plus dangereux de conduire en n'ayant pas assez dormi qu'en ayant bu un verre de vin. Je dis pas ça d'habitude. Enfin, je suis pas à promouvoir la consommation d'alcool, mais il faut quand même se pencher sur voilà. Même si vous n'avez pas consommé d'alcool au cours d'une soirée et que vous prenez la route à 3h du matin, il y a un risque accidentogène qui est quand même assez important, très important. Et puis on a donc une modification de la vigilance et on sait qu'il y a pas mal d'accidents assez importants, par exemple au niveau des entreprises, qui sont survenus vers 3h du matin. Parce que là, il y a un pic de la vigilance, il y a une baisse de la vigilance très importante, parce que bah, les personnes, elles n'ont pas eu un cycle, un rythme de sommeil synchronisé avec leurs besoins biologiques. Je reviens du coup, parce que je ne sais pas si c'est très clair, du coup je parlais de ces décalages de phase. Alors à la fois, il y a décalage de phase, et du coup, à cause des contraintes sociales, eh ben, je vais me coucher plus tard que ce qu'il faudrait, mais comme je me réveille tôt, enfin, j'ai pas eu un cycle de sommeil optimal, donc j'ai soit entamé mon sommeil paradoxal, soit entamé les premières phases de sommeil profond du début de la nuit. Et puis quand on réduit le temps de sommeil, on n'a pas assez de phases de sommeil, donc dans les deux cas, on perturbe l'architecture du sommeil et on impacte aussi les différentes phases nécessaires pour le sommeil. Alors, par rapport à l'éveil, à la vigilance et la mémoire, on sait aussi qu'au cours de la journée, on a des fluctuations de nos capacités d'attention et de mémoire. C'est-à-dire qu'en fonction de la température corporelle et de ces fameux rythmes circadiens, on ne va pas avoir les mêmes capacités cognitives au cours de la journée, et notamment pour des tâches assez simples et des tâches de mémoire à court terme. Il y a des moments de la journée où on va être plus optimal que d'autres. Donc ça, c'est lié avec nos modulations de la vigilance, hein, dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, si on regarde aussi le rôle du sommeil par rapport à tout ce qui concerne la mémoire et les apprentissages. Alors, j'ai été obligée de reprendre un petit peu quelques théories, puisque ça, c'est mon dada, donc j'avais envie de vous en parler un peu. Déjà, qu'est-ce que c'est que la mémoire ? Pareil, on a toujours tendance à dire la mémoire, mais vous savez bien, on a différentes formes de mémoire. Ce que j'ai mis en haut ici et qui est encerclé en gras, très à droite avec la souris, la mémoire épisodique verbale et la mémoire sémantique, c'est des formes de mémoire qu'on dit déclaratives, hein, c'est des choses qu'on va pouvoir verbaliser, c'est la capacité à récupérer des souvenirs. Ces souvenirs vont être liés à nos expériences personnelles. Vous avez un souvenir de l'année où vous avez passé le bac, et même un peu plus précis, j'imagine, des circonstances dans lesquelles vous avez passé, par exemple, votre bac. Vous êtes assez loin, là. Vous avez des souvenirs de votre mariage, vous avez des souvenirs de votre premier enfant, vous avez aussi des souvenirs de ce que vous avez fait ce week-end. Donc, vous avez des souvenirs, ce qu'on appelle épisodiques, personnels. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que là, tout ce que je viens d'évoquer, si vous l'avez vécu, a priori, c'est des souvenirs qui sont très contextualisés. Le bac, le mariage, le premier enfant, c'est des le week-end dernier, un anniversaire, c'est des situations que vous êtes capable de resituer dans le temps et que vous êtes capable d'associer à des émotions et que vous êtes aussi capable d'associer à des éléments qui vont répondre à avec qui vous étiez, où est-ce que ça s'est passé, quand, comment, quel était votre état émotionnel à ce moment-là. Quand on fait un apprentissage, au départ, notre apprentissage, il est très contextualisé. Là, vous allez peut-être vous souvenir que vous avez entendu parler de la mémoire épisodique verbale dans une salle de culte, un samedi matin du mois de janvier et qu'il faisait, je sais pas quel temps il fait dehors, mais voilà. Il y a un contexte qui est rattaché à certaines connaissances. Au fur et à mesure où vous allez être exposé à une connaissance, vous allez abstraire cette connaissance. Vous allez, à un moment donné, quand vous aurez entendu parler 10 fois de la mémoire épisodique verbale, le contexte sera différent à chaque fois, et ce que vous allez retenir, c'est pas le contexte, mais c'est l'information, l'abstraction de cette information-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. C'est toutes les connaissances que vous avez sur le monde. Vous savez qu'une chaise, c'est à 4 pieds, un dossier. Vous savez que Paris, c'est la capitale de la France, etc., etc. Alors pour vous, Parisiens, Paris, c'est la capitale de la France, ça reste associé à des souvenirs personnels qui sont contextualisés. Mais pour d'autres, ça renvoie à aucune image personnelle, aucun contexte. Ça fait partie de connaissances abstraites, sémantiques. Et puis, on a une autre forme de mémoire, qui, celle-ci, est beaucoup plus robuste, qui est très, très durable dans le temps, hein, c'est-à-dire que même dans des phases avancées de la maladie d'Alzheimer, cette mémoire procédurale, elle continue de résister. On peut d'ailleurs s'appuyer sur cette forme de mémoire pour continuer à permettre à la personne d'avoir de l'autonomie. Cette mémoire procédurale, c'est toute la mémoire des gestes et des postures. Par exemple, vous savez ouvrir une bouteille, c'est quelque chose que vous avez appris, c'est pas quelque chose de complètement inné, vous savez faire du vélo, vous l'avez appris, mais vous n'êtes pas capable de décrire tout ce qui fait que vous faites du vélo, et ce mouvement qui vous fait tenir en équilibre sur un vélo, c'est quelque chose qui va durer, même si vous ne faites pas de vélo pendant des années, vous allez pouvoir remonter sur un vélo et en faire. De la même façon, si je prends un autre exemple, la conduite, vous avez vu, quand vous avez appris à conduire, ça vous demande énormément d'énergie. Maintenant, vous conduisez, pour ceux qui conduisent, sans même réfléchir à comment vous faites. C'est quelque chose que le corps a complètement engrammé, que le corps a mémorisé, d'accord ? Et ça passe plus par un contrôle, enfin, un peu réducteur, mais on n'a plus un contrôle cognitif conscient sur notre manière de faire ces gestes-là. Donc c'est ça, la mémoire procédurale. Voilà, maintenant que j'ai un petit peu resitué comment fonctionne la mémoire, on va voir que le sommeil va favoriser la mémorisation et les apprentissages, mais en fonction des états de sommeil, en fonction des périodes de sommeil, ça ne va pas se passer de la même façon. Alors, notamment tout ce qui concerne la mémoire épisodique verbale, c'est le fameux sommeil long profond, très présent du coup en début de nuit, qui va favoriser cette mémoire épisodique verbale et qui va notamment favoriser tous nos apprentissages récents. Donc là, aujourd'hui, vous avez appris plein de choses au cours de cette journée. Donc cette nuit, si vous n'avez pas ce temps de sommeil profond, tout ce que vous avez entendu pendant la journée risque de ne pas être suffisamment réactivé et d'être oublié plus vite. En gros, ce sommeil lent profond, je caricature un petit peu, mais va vous permettre de stabiliser et de renforcer l'apprentissage d'une information que vous venez d'apprendre. Lui, le sommeil paradoxal, on a montré qu'il jouait un rôle important sur tout ce qui va être procédural. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, moi ça m'est arrivé avec le ski par exemple, faire un geste, je ne sais pas, vous allez apprendre à nager, vous allez apprendre à faire du ski, vous allez apprendre une nouvelle procédure, vous n'allez pas la pratiquer pendant quelques temps, puis vous allez, moi ça m'est arrivé avec les skis, vous allez remonter sur des skis, et vous allez vous rendre compte que vous avez progressé par rapport à la dernière fois où vous avez pratiqué cette activité. Étonnant. Et en fait, c'est ce sommeil paradoxal qui va nous permettre de réactiver ces traces motrices et de les imprimer dans le corps et du coup de les stabiliser et de les performer. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sommeil paradoxal, je vous ai dit qu'on était dans un état atonique. Donc heureusement, parce que si on réactivait ces traces et qu'on était en train de faire des mouvements en même temps, ce qui doit arriver quand même sur certaines transitions de phase du sommeil, ben on se mettrait à faire du ski en dormant, ce qui est un petit peu embêtant. Voilà, alors c'est une façon de distinguer un petit peu le rôle de différents états du sommeil sur différentes composantes aussi de la mémoire, de façon assez schématique pour l'instant. Donc le sommeil lent profond va favoriser une réactivation de l'hippocampe, hein, qui favorise l'encodage en mémoire, donc c'est la mise en mémoire de l'information. Je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle, mais notre cerveau, c'est pour schématiser un peu comme un ordinateur. On va avoir une phase de mémoire active où on va ancrer la trace en mémoire. Et cette trace mnésique, il va falloir la consolider. Et c'est là où ça se complique. Cette consolidation de la trace en mémoire, ce stockage qui va permettre de garder l'information sur le long terme, eh ben en fait, elle est garantie par une transformation finalement des temps consacrés aux différents états de sommeil pendant la nuit. Du coup, quand vous faites un nouvel apprentissage, va finalement y avoir une réorganisation du temps de sommeil, de l'architecture du sommeil au cours de la nuit. Et c'est ça qui va permettre de stabiliser l'apprentissage. Alors, on n'est pas encore au clair vraiment sur, et je ne suis absolument pas moi personnellement, sur les différents modèles, mais il y a plusieurs modèles qui existent pour expliquer ça. Soit finalement, pendant la nuit, on va juste venir réactiver la trace de ce qui a été appris, soit on va venir retransformer et élaguer les informations. Il y a des informations qui vont être utiles, pas utiles, et le cerveau, pendant la nuit, pendant cette phase de sommeil paradoxal notamment, va un petit peu faire le tri des informations. Et à travers ce tri des informations, va abstraire les informations qui sont importantes pour le nouvel apprentissage. En gros, ce que je viens de vous dire, ça c'était les premières théories, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est toujours le problème quand on fait des sciences, n'est-ce pas? C'est que finalement, c'est jamais aussi simple et c'est toujours très très compliqué à transmettre parce que c'est des modèles intégratifs. Finalement, ce qui va être important, c'est pas tant d'avoir un temps de sommeil profond ou un temps de sommeil paradoxal, c'est d'avoir ce temps de sommeil complet. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, on peut pas tellement... Le problème des décalages de phase, c'est que ça va venir rogner sur une partie de notre sommeil et que si ce temps de sommeil n'est pas complet, ça va avoir des impacts au niveau de la mémoire. Parce que ce qui compte, c'est cet enchaînement de temps de sommeil lent, de temps de sommeil profond et de temps de sommeil paradoxal pendant la nuit. Et si vous vous levez trop tôt, bah vous aurez moins ce temps de sommeil paradoxal et ça va gêner la consolidation des informations en mémoire. Si vous vous couchez trop tard, vous n'aurez pas ce temps de sommeil léger et du coup ça va venir gêner l'encodage des informations. Vous m'avez suivi? Et puis pour rajouter une petite couche de complexité, ben tout ça, c'est soumis à des variables. À des variables qui sont interindividuelles, qui sont génétiques, et qui sont liées aussi à des habitudes de vie. C'est-à-dire, alors ça c'était le but un petit peu de, je devais animer un atelier cet après-midi, mais j'ai un changement de train et du coup je vais partir plus tôt, mais si ça vous intéresse, vous trouverez sur internet. En fait, on est du matin ou on est du soir. D'accord? Je vous disais, il y a des gros et des petits dormeurs, mais il y a aussi des personnes qui sont du matin et du soir, et c'est pas juste une légende sociale. Ça se vérifie sur le plan biologique. Il y a d'ailleurs des petits questionnaires, et c'est ça que je voulais vous proposer, qui vont permettre d'identifier notre chronotype au niveau du sommeil et de savoir si on est plutôt du matin ou plutôt du soir. Alors, peut-être qu'il y en a qui le savent. Moi, il n'y a pas de souci, je le sais. Je suis plus efficace à 19h qu'à 6h du matin. Et je suis un vrai diesel parce que je suis plutôt du soir et que le matin, quand je me lève à 6h, je peux vous dire que je suis pas très efficace avant 11h. Mais un sujet du matin va être plus efficace le matin entre 6 et 7 que le soir à 19h. Alors, dans le petit tableau là, quand on est du matin, du coup, on va être plutôt frais et dispo au réveil, on va pas trop traîner à sortir du lit, ce n'est pas mon cas. On va rarement se lever après 9h, par contre, à 5h du matin, c'est bon, on est au taquet. Et on va avoir un pic de mélatonine vers 20h qui va nous dire, attention, là, c'est l'heure d'aller dormir. Et quand on est du soir, ben, on a du mal à émerger. On va aussi avoir des décalages de rythme entre les week-ends et les temps de travail, parce que le matin, il faut se lever pour aller au boulot. Du coup, il nous manque un petit temps de sommeil, donc on va le récupérer quand on peut faire la grasse mat. Si on a à se lever tôt, ben des fois, on préfère ne pas se coucher. Hein, donc si il est 6h du matin, ça nous permet. S'il est 3h du matin et qu'on sait qu'on se lève à 6h, on va peut-être préférer finalement rester éveillé que d'avoir à s'endormir pour se réveiller tôt. Et du coup, ben, on a un pic de mélatonine qui est beaucoup plus tardif, qui arrive plutôt vers 24 heures. C'est les extrêmes, hein, là, c'est des caricatures. Et puis, on a aussi des variabilités liées à l'âge. Donc, effectivement, je parlais des adolescents tout à l'heure, c'est une période où il va y avoir un petit décalage de soir en faveur, un petit décalage de phase en faveur du soir. Donc les adolescents sont des profils plutôt du soir, et effectivement le matin ils sont pas très réactifs. Je sais pas si vous avez des adolescents à la maison. Ils sont pas très réactifs le matin, ils vont se coucher tard le soir. Mais ça, c'est aussi des... Alors, il n'y a pas que les phénomènes sociaux, c'est aussi des choses qui sont propres à la période de l'adolescence. Et il y a pas mal de chercheurs qui militent, par exemple, pour que la classe puisse commencer un peu plus tard, le matin, parce que bah, à 8h, on va rien en tirer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner ça, c'est à prendre en compte, mais il faut aussi veiller à ce que ce décalage de phase il soit pas trop important et que ça ne les mette pas non plus en décalage complet par rapport à la société. Donc, je ne rentre pas là-dedans. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Et puis, je voulais faire un dernier petit point sur les liens entre sommeil et prise de décision. Donc, la prise de décision, ça, je le ramène à ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont les fonctions qui vont nous permettre de nous adapter, d'être flexibles dans notre fonctionnement, de réguler un comportement, de gérer des réactions impulsives, intempestives, et de planifier aussi ce qu'on fait. Et là, je reprenais un petit peu les conclusions d'une étude qui s'était intéressée à la privation de sommeil et à la prise de décision. Donc, on mettait des sujets dans des situations de jeu de hasard, et on regardait les options qui étaient choisies entre un groupe privé de sommeil et un groupe qui avait un sommeil normal. Et on s'aperçoit qu'en cas de privation de sommeil, on va avoir une augmentation de la prise de risque et une attractivité plus grande vers des solutions risquées. Ça vient dire qu'il vaut mieux pas prendre trop de décisions quand on n'a pas assez dormi. On risque de se tourner vers les solutions les plus risquées. Et puis je voulais du coup élargir un petit peu, sortir du champ de la cognition pour parler de l'impact sur l'alimentation et sur l'humeur. Donc, l'humeur, elle peut être aussi directement liée à des défauts de régulation au niveau cognitif. Je pense, par exemple, aux troubles déficitaires de l'attention. Donc, c'est un manque d'attention, mais ça va avoir des impacts énormes au niveau de l'humeur. Hein, c'est des enfants ou des adultes qui vont être aussi impulsifs au niveau de leurs émotions, qui vont avoir des crises de colère importantes et un peu subites. Et au niveau alimentaire, du coup, la réduction du temps de sommeil va aussi déstabiliser ces phénomènes de satiété ou d'envie de manger. Et du coup, on risque d'avoir des personnes qui vont avoir envie de manger à des moments, tout au long du cours de la journée. Il n'y a jamais ce sentiment de satiété. Et du coup, il y a une prise alimentaire un peu continue, avec aussi une attirance plus forte vers tout ce qui va être gras et sucré, parce que il y a un manque de sommeil, et que, du coup, on va aller rechercher les aliments qui vont favoriser l'induction du sommeil. Je reviens juste après. Alors, là, j'ai un petit peu brossé les choses de façon générale. J'avais juste envie de m'arrêter sur un trouble du sommeil qui est quand même assez fréquent, pas forcément très bien diagnostiqué, et qui touche quand même un pourcentage de la population assez important. Donc voilà, c'était ma petite minute prévention aussi. En parlant de l'apnée du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, c'est ces arrêts respiratoires qu'on peut avoir au cours du sommeil, qui sont caractérisés, enfin les signes principaux, c'est quand même des ronflements, mais pas que. Il y a aussi, chez ces sujets-là, une forte agitation pendant la nuit, surtout chez l'enfant. C'est des enfants qui vont faire le 360 dans leur lit pendant la journée ou qui tombent du lit. Une envie fréquente d'uriner pendant la nuit et la présence de sueur nocturne. C'est des signes qui sont à repérer, avec bien sûr de la somnolence dans la journée, puisqu'il y a une dette de sommeil. Et il y a des conséquences au niveau cognitif. Alors déjà parce qu'il y a une mauvaise oxygénation du cerveau, et puis ensuite parce que le sommeil est entrecoupé et que du coup cette régularité des états du sommeil est interrompue plusieurs fois au cours de la nuit. Et donc on voit apparaître des troubles de mémoire et de la concentration, l'augmentation du risque d'obésité et des perturbations cardiaques. Et je peux vous dire, pour avoir vu un patient qui avait l'apnée du sommeil et des gros troubles de l'humeur et des gros troubles de la concentration, que l'appareillage a vraiment changé sa vie. Enfin, c'est c'était le jour et la nuit. C'est, au niveau de la concentration, il a normalisé tous ses tests après 3 mois d'appareillage. Donc, ça m'a marqué parce que voilà, c'est des personnes qui étaient orientées dans des services assez lourds de psychiatrie et qu'en fait, le problème, il était uniquement au niveau du sommeil. Et surtout, on fait des choses très intéressantes maintenant avec la mélatonine, l'appareillage, la lunettothérapie. Donc, la prise en charge des troubles du sommeil, elle est quand même très, très pertinente. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse supplémentaire. C'est la prise d'anxiolytiques. Donc, c'est bien, les anxiolytiques, quand on a des troubles du sommeil, bah oui, ça nous fait dormir. En fait, le problème de l'anxiolytique et des hypnotiques, hein, surtout des hypnotiques, ça fait dormir, mais ça ne permet pas de garder la séquence biologique de ces états de sommeil. Donc, ça induit un sommeil profond, mais ça vient, je crois, là j'ai un petit doute, mais je crois que ça vient perturber le sommeil paradoxal. Et finalement, oui, ça fait dormir, mais au niveau des conséquences cognitives, c'est pas top, parce que du coup, on perd ce rythme des états de sommeil. Donc, je pense que maintenant, les médecins sont un peu plus au fait, mais il vaut bien mieux prescrire de la mélatonine ou rééduquer sur le plan comportemental l'induction du sommeil plutôt que de prendre un anxiolytique ou un anxiolytique pour dormir. Donc ça, c'était ma petite parenthèse d'apnée du sommeil. Et puis là, je vais aussi faire le lien entre sommeil et alimentation, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un peu mon truc aussi, et je crois beaucoup à l'homéostasie globale et à une prise en charge intégrative. Et finalement, on voit aussi qu'on peut favoriser le sommeil en adaptant et en optimisant nos prises alimentaires. Déjà parce que à travers notre alimentation, on va permettre que les sécrétions de neurotransmetteurs, d'hormones se fassent de façon optimale. Et on va donner une rythmicité dans la journée en faisant aussi des prises alimentaires. Alors au niveau nutritionnel, il y a aussi des rythmes. Et on sait que de manger des protéines le matin, plutôt d'avoir une alimentation riche en protéines le matin, et moins de sucre lent, moins de biscuits, de brioches, je sais pas ce que vous pouvez consommer le matin, enfin d'éviter les choses sucrées et grasses le matin, ça va être un comportement alimentaire qui va favoriser l'induction du sommeil le soir. Et au contraire, le soir, il va plutôt falloir éviter tout ce qui est viande, protéines, et avoir une alimentation avec des glucides complexes, des pâtes, du riz, des céréales complètes. Pas trop de sucre non plus, hein, mais voilà. On voit aussi, donc, au niveau des moments et de la composition de nos plats, on va pouvoir avoir un rythme et une induction du sommeil qui va être favorable. Et puis, comment aussi optimiser finalement le sommeil? J'espère que c'est un peu ce que je transmets à travers cet exposé, c'est que finalement, il va falloir se connaître. Il y a notre rythme biologique, mais il faut aussi savoir repérer les signes qui nous invitent à aller dormir. Et ça, on peut vraiment faire un travail aussi auprès des enfants là-dessus. Déjà, se connaître si on est un petit ou un grand dormeur, est-ce qu'on est du matin ou est-ce qu'on est du soir. Et puis, écouter les signes qui nous font dire, tiens, là, notre corps, il est en train de nous dire que c'est le moment d'aller dormir, donc le bâillement, les moments de refroidissement aussi. Et puis le troisième point, c'est d'être assez en phase, aussi en phase avec le rythme jour-nuit. Donc ça, c'est pas évident parce que on est dans une société où on peut avoir les lumières tout le temps, mais finalement, il vaudrait mieux aller se coucher comme les poules au moment où le soleil se couche et se réveiller avec la lumière du jour. Voilà, et puis je voulais juste conclure par quelques petits conseils un peu plus généraux pour bien dormir. Finalement, là j'en ai donné pas mal au niveau de notre hygiène de vie, mais il y a aussi des petites choses qui sont favorables, par exemple dormir dans une pièce fraîche. On sait qu'il vaut mieux faire diminuer la température du corps avant de s'endormir, aller dans le sens de la biologie. Donc, par exemple, si vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez aller prendre une douche, mais pas trop chaude. Il vaut mieux prendre une douche fraîche, être dans une pièce fraîche, aérée. J'ai parlé de l'alimentation, je parle aussi de l'activité physique. On va éviter une activité physique intensive le soir, parce que ça va aller à l'inverse des rythmes biologiques. Et puis, les fameux écrans, je vais conclure là-dessus, et puis éviter d'être exposé à des lumières fortes ou à des lumières avec des ondes de disparaître. Voilà un petit topo de notre rythme de sommeil et de l'impact sur nos apprentissages.
Merci Chloé. Est-ce que plusieurs personnes ont des questions ? Oui. Oula, ça a dégainé assez rapidement là.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la sieste ?
Alors oui, la sieste est plutôt encouragée finalement. Chez les enfants, en fait, elle est. Alors je peux pas détailler plus que ça, mais effectivement. Les études montrent que c'est plutôt favorable de maintenir la sieste chez les enfants et qu'elle n'est pas pas contre-indiquée chez les personnes âgées aussi. Alors elle serait pas mal aussi chez les personnes qui travaillent, mais voilà. Comment ? Ouais, je saurais pas répondre. À ça, mais c'est aussi respecter cette baisse de la vigilance qu'il y a vers 15 heures, en fait. Je saurais pas détailler plus.
Alors, j'ai une question aussi. Donc, vous parliez du fait qu'il y avait des variables qui influençaient le rythme pour chaque individu, et aussi du fait qu'il y avait des individus qui étaient plutôt du matin, plutôt du soir. Et dans quelle mesure est-ce que ces rythmes naturels, individuels, peuvent être modifiés par est-ce qu'on peut modifier ce rythme par une habitude de vie, etc., ouais, pour créer des décalages ou réajuster son rythme biologique par rapport au temps, ouais, de la journée ?
Alors, j'ignore tous les paramètres de ces rythmes. Il y a des facteurs génétiques et bien sûr, il y a aussi des modifications environnementales, déjà de ces facteurs génétiques, hein, avec l'épigénétique, mais il y a aussi une adaptation du chronotype par les habitudes de vie. Effectivement, mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre. On peut pas modifier ce chronotype par des habitudes de vie parce qu'il y a quand même une part génétique et biologique propre. Ça répond à votre question.
Ça marche, oui. Est-ce qu'on observe des troubles chez les populations qui vivent très au nord et qui ont des nuits qui durent plusieurs mois?
Alors, j'ai envie de poser une question théologique, parce que le sommeil semble quand même une perte de temps pour, disons, on pourrait beaucoup plus servir Dieu, hein, si on n'avait pas besoin de dormir. Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il créé avec ce besoin de sommeil ? Bon, comme vous avez beaucoup réfléchi à la question, je dirais, quel est votre regard un peu de chrétienne, disons, sur le sommeil ?
Ben, je sais pas, est-ce que du coup le sommeil est vraiment une perte de temps, vu tout ce que je viens de dire, j'en suis pas sûre, finalement. Enfin, alors, j'avais hésité à présenter mon exposé en parlant aussi des liens entre mémoire et identité. Parce que la mémoire, c'est notre identité. Et sans... comment dire ? Je vais essayer de refaire court, là, je vais mobiliser un peu mon identité, mais... notre identité, elle est quand même constituée de nos souvenirs, de ce qu'on a vécu et de la manière dont on intègre ces expériences dans notre quotidien. Et du coup, enfin, sans sommeil, on perd cette qualité de la mémoire, on ne renforce pas les expériences de vie. Du coup, on altère aussi notre identité. Enfin, Je peux reprendre aussi un autre exemple. C'est, enfin, du coup, j'ai travaillé avec des personnes qui souffrent de maladies psychiques sévères, qui ont une qualité du souvenir qui est moindre. Hein, donc, ça veut dire que ce qu'elles ont vécu, par exemple, le week-end dernier, elles vont pouvoir vous dire, oui, j'ai été au cinéma. Mais va pas y avoir toute l'expérience vécue que vous allez avoir en disant, j'ai été au cinéma avec quelqu'un, ça me fait vivre une émotion. Y a pas tout ce contexte dans lequel vous allez vivre. Enfin, elles ont perdu ce contexte, elles vont pas garder contexte dans lequel elles ont vécu les choses. Et du coup, ça modifie leur identité aussi. Elles ont une connaissance un peu abstraite, un peu externe d'elles-mêmes. Et voilà, enfin, c'est des éléments de réflexion. J'ai pas répondu à ça, mais enfin, pour moi, le sommeil, il vient quand même permettre de construire cette identité-là à travers son rôle sur la mémoire. Donc, je ne pense pas que le sommeil soit une perte de temps, je suis convaincue. Et je pense qu'on a été créé aussi parce que c'est important. Et, du coup, enfin, ouais, j'ai peut-être pas aussi insisté là-dessus. Enfin, je rebondis un peu avec les idées qui me viennent, mais sur cette idée que, à travers le sommeil, là, on a une réorganisation des traces en mémoire. C'est pas simplement on réactive ce qu'on a vécu, mais on réorganise les traces. Ça a vraiment un rôle sur notre capacité d'abstraire le monde et de, comment dire, de, je sais pas si ça vous parle assez quand je dis abstraire les choses, c'est-à-dire de prendre du recul sur des situations à travers ce temps de sommeil paradoxal. Donc c'est cette histoire de l'élagage, c'est-à-dire qu'on va pas simplement garder tout ce qu'on a vécu, mais on va faire un tri. Il y a des choses qui vont être importantes, des choses qui vont être secondaires, mais on va garder ce qui est secondaire. Et ça, c'est un rôle dans l'abstraction, dans notre prise de distance par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport au monde. Enfin, c'est ce qui construit notre intelligence, hein, ni plus ni moins, quelque part.
Moi, j'ai une question sur parfois quand on a peut-être raté le premier train, comme on dit parfois avec les enfants, il y a une période de hyper excitation. Pourquoi? Tu l'as peut-être dit, mais j'ai peut-être pas écouté.
Pourquoi est-ce qu'il y a une hyper excitation quand il y a du sommeil chez les enfants? Mais effectivement, c'est un signe très fort. Mais après, je pense que, enfin, moi, je le rattacherais à ce défaut de régulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fatigue, ce que je disais, empêche cette régulation par le mode préfrontal. Et que, du coup, on est dans des réactions hyper impulsives. Il n'y a plus de régulation du comportement et des émotions. Moi, je l'explique comme ça. Il y a peut-être d'autres explications aussi.
J'ai une question qui tourne autour de la phrase « La nuit porte ses conseils ». C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec mes responsabilités professionnelles. Dans la journée, quand j'ai besoin de décider, des fois je ne vois pas la solution. Et je sais qu'il suffit de dormir et le lendemain, je vais voir plus clair. Alors ma question est, entre deux cycles pendant la nuit, je me réveille. Et donc, je sais que ces questions tournent en arrière-plan et j'arrive à m'endormir facilement. Ma question est, au moment quand j'ai réfléchi trop pendant la nuit à ces questions, est-ce que vous avez une astuce pour nous aider à s'endormir plus facilement en sachant que ça tourne en arrière-plan?
Alors oui, il y a des choses qui peuvent aider à lâcher prise, parce que finalement ce qu'il y a derrière, c'est pas simplement que vous réfléchissez à des préoccupations liées au travail. C'est un petit peu le propre du sujet aussi anxieux de pas arriver à lâcher prise sur ses pensées, qu'elles soient liées au travail ou qu'elles soient de s'inquiéter de ce qui va se passer le lendemain ou de ce qu'il a dit dans la journée, etc. Alors, tout ce que j'ai dit, tous les conseils d'endormissement, d'avoir des petits rituels d'endormissement, de diminuer la lumière, tout ce qui va finalement favoriser l'induction du sommeil, ça peut aider. Et puis bah, après, il y a toutes les techniques de relaxation, de sophrologie, la respiration, tout ce qui est méditation, de pleine conscience, etc. Ça a quand même des effets assez, assez intéressants sur ces aspects-là. Après, il y a deux choses. Hein. Il y a la difficulté d'endormissement. Je ne suis pas rentrée dans tous les trous de sommeil, mais il y a la difficulté d'endormissement. On a du mal à prendre du recul sur ce qui s'est passé dans la journée. Mais c'est aussi souvent le réveil du petit matin qui est problématique. C'est-à-dire qu'on va s'endormir parce que finalement, il y a cette pression du sommeil qui fait qu'on va induire le sommeil. Mais c'est au moment du petit matin où il y a du coup une résurgence de toutes les pensées anxieuses.
Moi, j'avais une question par rapport aux micro-siestes de 15 minutes, 20 minutes. Est-ce qu'il y a vraiment un mode réparateur de la fatigue? Ou est-ce que c'est juste dans l'esprit, on a l'impression d'être mieux après avoir dormi un petit peu?
Non, bah J'ai pas assez regardé les mécanismes de la sieste, mais c'est un petit peu la même chose que la sieste, en fait, où on va du coup induire un sommeil qui va quand même permettre de réoptimiser un petit peu le niveau cognitif et les fonctions biologiques.
J'ai une question. Vous n'avez pas parlé des rêves, donc je voulais savoir à quel moment les rêves interviennent et est-ce que ça joue un rôle.
Alors, c'est une question qui n'a pas complètement sa réponse. Normalement, l'éveil, les rêves interviennent plutôt au moment du sommeil paradoxal. Voilà, avec beaucoup de choses qui sont en cours d'étude hein, sur la question des rêves, je suis pas non plus une experte là-dessus. Mais en tout cas, c'est plutôt dans cette période de fin de nuit et au moment du sommeil paradoxal que les rêves interviennent, au moment où l'activité corticale, elle est d'ailleurs intense. Et après, effectivement, les phénomènes du rêve, c'est hyper intéressant. Parce que le rêve, c'est pas non plus. En fait, c'est voué à beaucoup de fantasmes. Mais finalement, le rêve, c'est ni plus ni moins cette réactivation de ce qu'on a vécu dans la journée. Le rêve, il s'appuie toujours sur quelque chose de ce qui s'est passé dans les heures ou les jours avant, souvent les heures. Et du coup, ça, c'est vraiment l'illustration, enfin à mes yeux, de ce phénomène de réactivation de la mémoire, en fait. Mais voilà, réinterpréter, entre guillemets, je ne suis pas très psychanalyste dans mon approche, mais réinterpréter ou recontextualiser avec d'autres événements de vie. En fait.
Merci beaucoup, Chloé. Et on peut l'applaudir si vous voulez, pourquoi ?